Vous écoutez On lit pour vous. Disclosure Day, la foi à l'épreuve des extraterrestres. Un texte de Loïc Bizeul, paru le 24 juin 2026, dans Présence, information religieuse. Avec le film Disclosure Day, sorti le 10 juin, Steven Spielberg réactive une inquiétude ancienne. Une vie extraterrestre ferait-elle vaciller les religions? L'histoire de la théologie et les enquêtes disponibles suggèrent que la crainte appartient moins aux croyants qu'à ceux qui les observent. 50 ans après Rencontre du troisième type, Steven Spielberg lève de nouveau les yeux vers le ciel. Disclosure Day met en scène l'imminente divulgation d'une vérité tenue cachée, celle d'une présence extraterrestre que les autorités dissimuleraient depuis des décennies. Le cinéaste, qui dit avoir vu sa curiosité ravivée par un article du New York Times de 2017 sur un programme du Pentagone consacré aux objets volants non identifiés, est né en 1947, l'année même de l'affaire Roswell. Écrit par David Koepp et mis en musique par John Williams, le film tient autant du thriller paranoïaque que du film d'Aliens. La critique y a surtout vu une fable humaniste, traversée d'une symbolique religieuse à peine voilée, un oiseau, le cardinal, en figure d'annonciation, deux protagonistes en forme d'apôtres et, pour dernier mot, un impératif qui n'a rien d'anodin. Écoutez! Spielberg ne s'en cache pas. En promotion, il a formulé la question que son film effleure sans la traiter vraiment. Dieu est-il notre Dieu uniquement sur cette planète ou le Dieu de tous les systèmes où existerait une vie intelligente? Le réalisateur reste à la surface de l'implication. Mais il a le mérite de remettre devant le grand public une question bien plus ancienne que son cinéma et plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Un débat vieux de 8 siècles. Que deviendrait le christianisme si la vie n'était pas le propre de la terre? Plus que d'autres traditions, il paraît exposé car il fait reposer le salut sur un événement situé, l'incarnation de Dieu en un point précis de l'histoire, sa mort et sa résurrection. Faudrait-il alors imaginer d'autres incarnations sur d'autres mondes, ou un seul Christ dont la rédemption rayonnerait dans tout le cosmos? La question n'est pas neuve. Dès le 13e siècle, les théologiens se divisent entre les tenants d'une terre unique, dans le sillage d'Aristote et de Thomas d'Aquin, et les partisans de la pluralité des mondes, soucieux de ne rien retrancher à la puissance créatrice de Dieu. En 1277, à Paris, l'évêque Étienne Tempier tranche par une prudence restée fameuse. Il refuse d'affirmer l'unicité du monde sans valider pour autant sa pluralité, au motif qu'il ne revient pas aux humains de fixer des limites à Dieu. Autrement dit, l'Église a très tôt choisi de ne pas faire du géocentrisme un article de foi. Lorsque Copernic puis Galilée délogeront la Terre du centre, le cœur du dogme n'en sera pas atteint. Le motif traverse ensuite les siècles. Au 18e siècle, Thomas Paine fait de la pluralité des mondes une arme contre la foi chrétienne, qu'il juge petite et ridicule à cette échelle. Au 20e siècle, les jésuites et paléontologues Pierre Teilhard de Chardin renouent au contraire avec la figure d'un Christ cosmique et l'écrivain C.S. Lewis, apologète pourtant classique, juge absurde de croire que les humains seraient les seuls bénéficiaires d'une telle grâce. Aujourd'hui, une exothéologie prolonge ce travail du luthérien Ted Peters au jésuite Guy Consolmagno, astronome de l'Observatoire du Vatican, pour qui la fécondité créatrice de Dieu ne saurait se réduire à notre seule espèce. Une paire de spectateurs plus que de croyants. C'est ici que Disclosure Day bute, sans le savoir, sur un fait contre-intuitif. L'idée qu'une révélation extraterrestre provoquerait une crise religieuse générale est surtout répandue chez ceux qui ne croient pas. Une enquête conçue par Ted Peters, menée auprès de 1300 personnes, l'a démontré. Une minorité seulement de croyants estime que sa foi en serait ébranlée. Les catholiques un peu plus à 22 %. Tandis que près de 7 non-croyants sur 10 anticipent une crise pour l'ensemble des religions. L'écart est instructif, même en tenant compte des limites d'un tel sondage. La perte de la foi que met en scène le cinéma d'anticipation tient en bonne part d'une projection. C'est le regard séculier qui prête aux croyants une fragilité qu'ils n'expriment guère. On peut y lire une ironie. Le scénario d'une science venant enfin réfuter la religion est lui-même une vieille espérance, dotée d'une structure quasi-religieuse, l'attente d'une révélation qui viendrait tout changer. Le titre du film le dit sans détour. Disclosure, c'est la divulgation, mais le mot français qui s'impose, révélation, est d'abord théologique et apocalypse signifie littéralement dévoilement. La culture du secret d'État et des soucoupes cachées, de Roswell au moment contemporain de la Disclosure, rejoue ainsi, en mode profane, une grammaire eschatologique, un savoir caché retenu par les puissants, promis à un dévoilement qui exigera de croire. La vraie question, qui est mon prochain? Reste un débat plus durable que la cosmologie et que le film touche peut-être malgré lui. La rencontre d'une altérité radicale ne menace pas tant les dogmes qu'elle ne rouvre la question des frontières de la communauté. Qui compte devant Dieu? Qui est mon prochain? À qui devons-nous quelque chose? Les chrétiens du passé ont déjà affronté cette épreuve. En 1550, la controverse de Valladolid, qui suit la découverte des peuples des Amériques, ne porte pas sur l'astronomie, mais sur le statut de l'autre. A-t-il une âme? Faut-il l'évangéliser? Peut-on l'asservir? C'est à cette mémoire que renvoie la crainte de C.S. Lewis, qui redoutait qu'une rencontre avec d'autres mondes n'exporte notre péché et un nouveau colonialisme. Vu sous cet angle, le dernier mot dans le film de Spielberg, « Écoutez », change de portée. Il ne désigne plus seulement l'attente d'un signal venu des étoiles, mais une disposition, la capacité d'une communauté à recevoir ce qui la déborde sans la réduire à elle-même. La grande énigme du cosmos rejoint alors une question très terrestre et très ancienne que les sciences sociales connaissent bien. Comment un groupe humain accueille-t-il l'étranger et l'invérifiable? C'est sans doute le service le plus utile que rend Disclosure Day. En croyant parler d'extraterrestres, le roi du divertissement ravive un débat que les théologiens avaient eu la sagesse, dès le Moyen Âge, de ne pas trancher. Non parce que la foi craindrait les astres, mais parce que la véritable épreuve n'a jamais été là où le grand spectacle la situe. C'était Disclosure Day, la foi à l'épreuve des extraterrestres, un texte de Loïc Bizol, paru le 24 juin 2026, dans Présence, Information religieuse.
pour une reconnaissance explicite du droit au logement. Un texte de la rédaction, paru le 25 juin 2026 dans Droits et libertés. Un grand absent de la Charte québécoise. L'année 2026 marque le 50e anniversaire de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise. Ce texte fondamental a été déterminant dans la construction du Québec moderne en plaçant la protection des droits et libertés au cœur de son ordre juridique. La Charte québécoise est considérée à juste titre comme un document progressiste et unique dans l'histoire législative nord-américaine, notamment parce qu'elle énonce certains droits économiques et sociaux, dont le droit à l'instruction publique gratuite et à des conditions de travail justes. Pourtant, la protection et la reconnaissance accordées aux droits économiques et sociaux y sont plus faibles, et le droit au logement n'y est pas reconnu de façon directe et explicite. Cela représente une lacune majeure du système provincial de protection des droits humains et une entorse aux obligations du Québec en vertu du droit international. La LDL demande au législateur de renforcer la charte et les droits qu'elle reconnaît et protège, notamment en y ajoutant un nouvel article reconnaissant explicitement le droit au logement. À l'instar des autres droits économiques et sociaux actuellement énoncés, la nature prépondérante et judiciable de ce droit devra être établie, c'est-à-dire qu'il aura préséance sur les autres lois dites ordinaires et pourra être invoqué efficacement devant les tribunaux. La Charte québécoise ne reconnaît pas explicitement le droit au logement, qui est pourtant un droit pleinement reconnu en droit international. Certaines des dispositions de la Charte rejoignent indirectement le droit au logement. C'est le cas notamment du droit à la sûreté de la personne, article 1, de l'interdiction de la discrimination dans le logement, article 10, et du droit à un niveau de vie décent, article 45. Pourtant, plus d'une vingtaine d'États à travers le monde ont inscrit ce droit humain dans leur constitution. Par exemple, la Constitution de l'Afrique du Sud reconnaît depuis 1996 le droit à un logement convenable et engage l'État à s'assurer que les mesures législatives qu'il met en place garantissent la réalisation progressive de ce droit, tout en protégeant les personnes contre les expulsions arbitraires. La reconnaissance explicite du droit au logement est en droite ligne avec l'esprit des rédacteurs de la Charte québécoise qui ont souhaité faire de ce document un instrument d'approfondissement de l'égalité et de la justice sociale. Elle paraît aussi une adaptation nécessaire de cette loi fondamentale à la crise actuelle du logement ainsi qu'aux inégalités qui se creusent et qui continuent de faire obstacle à la pleine réalisation de ce droit humain. 2. Une crise d'une ampleur sans précédent. La crise du logement dans laquelle est plongé le Québec depuis plusieurs années compromet l'exercice du droit au logement pour toutes et tous. Les loyers explosent, le nombre de logements sociaux est nettement insuffisant, alors que les besoins sont criants, les évictions se multiplient, tandis que le parc locatif se détériore et que diverses formes d'exploitation, d'intimidation et de discrimination continuent de toucher de manière disproportionnée les populations vulnérabilisées. L'itinérance augmente de façon alarmante aux quatre coins du Québec, en grande partie en raison de cette réalité. Les solutions ne manquent pourtant pas pour assurer l'exercice de ce droit. Contrôle des loyers, interdiction des évictions et des expulsions forcées, lutte contre la gentrification, investissement dans le logement social et communautaire, préservation du parc locatif, construction de logements hors marché spéculatif, législation et soutien juridique permettant le respect des droits des locataires, action contre la discrimination dans l'accès au logement et bien d'autres encore. Un changement de paradigme s'impose. Le logement n'est pas une marchandise, mais un droit humain. Le gouvernement du Québec doit prendre acte de ses obligations à respecter, protéger et mettre en œuvre ce droit essentiel à la dignité humaine. 3. Le droit au logement, c'est quoi ? La Charte québécoise doit reconnaître explicitement le droit au logement et dans son libellé comme dans son interprétation, s'inspirer directement des obligations de l'État québécois et des plus hauts standards en vertu du droit international des droits humains. Le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, PIDESC, stipule que les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement, et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Article 11. des obligations concrètes en vue d'assurer la réalisation progressive du droit au logement incombent tant au Canada, qui a ratifié le PIDESC, qu'au Québec, qui s'y est déclaré lié de son plein gré dès 1976. Le droit au logement est juridiquement contraignant pour le Canada, a déclaré Leilani Farah, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement convenable 2018. Le droit au logement ne se résume pas au simple fait d'avoir un abri ou un toit sur la tête. Selon le droit international, le droit à un logement convenable ou suffisant garantit à chacun un habitat sûr, salubre, abordable et accessible, où l'on puisse vivre dans la sécurité, la paix, la dignité et le respect de sa vie privée. Pour être pleinement exercé, le droit au logement implique la sécurité légale de l'occupation, être protégé contre l'expulsion, le harcèlement et les menaces, l'abordabilité et la capacité de paiement des personnes, la présence de services, d'infrastructures et d'équipements adéquats, l'habitabilité et la salubrité des lieux, la facilité d'accès, y compris pour les personnes vulnérables et à mobilité réduite, l'emplacement adéquat près de services et du lieu de travail, le respect du milieu culturel des personnes qui y résident. Le droit au logement ne signifie pas que les États doivent fournir un logement gratuit à l'ensemble de la population. Mais ils ont l'obligation de protéger les personnes contre les évictions et expulsions forcées, de mettre fin à la discrimination dans l'accès au logement, d'adopter des mesures permettant l'accès à un logement convenable et abordable, le tout en portant une attention particulière aux groupes vulnérables. Son inscription dans la Charte québécoise constituerait une avancée majeure pour la protection du droit au logement. Elle responsabiliserait l'État quant à ses obligations, offrirait des recours aux personnes, assurerait une véritable imputabilité du gouvernement et ferait en sorte que toutes les lois touchant le logement pourraient faire l'objet d'un examen en constitutionnalité en vertu de la Charte. 4. Dans le droit international. Depuis 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît le droit au logement à travers la protection du droit à un revenu suffisant. Article 25. Ce droit a depuis été réaffirmé dans plusieurs instruments juridiques internationaux, parmi lesquels Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966. Il reconnaît le droit à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à un logement suffisant. Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, 1969. Elle souligne l'obligation des États de procurer à toutes les personnes, et en particulier aux personnes à faible revenu, des logements satisfaisants. Déclaration de Vancouver, Conférence des États-Unis sur les établissements humains, 1976. Elle offre pour une première fois une définition extensive de la notion d'habitat convenable qui servira de base à la définition de logement convenable. Observation générale numéro 4, 1991, et numéro 7, 1997, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Elle identifie 7 caractéristiques pour répondre aux critères d'un logement suffisant ou convenable et rappelle que les évictions et expulsions forcées sont des violations de ce droit. C'était, pour une reconnaissance explicite du droit au logement, un texte de la rédaction, paru le 25 juin 2026 dans Droits et libertés.
Le 12 août, j'achète un livre québécois, Marie Potvin, Un été pour s'apprivoiser. Une entrevue réalisée par Anne Genet, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Dans un chalet des Laurentides, deux êtres blessés apprennent à cohabiter. Au fil des jours, la proximité impose ses règles et fait émerger ce qui, d'abord, résistait. Au téléphone, Marie Potvin me parle depuis les Laurentides. De la ville d'où je l'écoute, je devine le calme qui l'entoure, la forêt, l'eau, l'impression d'éloignement. Rien d'étonnant alors à ce que « Donne-moi juillet » s'ancre loin du milieu urbain. Dans ces lieux retirés, une dynamique particulière s'installe. les liens se resserrent, les tensions se déplacent, l'intime affleure. L'autrice connaît bien cet univers. Elle possède elle-même un refuge de ce type, qu'elle a en quelque sorte prêté à ses protagonistes. Un décor familier, nourri par des étés au bord de l'eau, écrit en plein hiver, alors que le paysage réel se fige sous le froid. Ce décalage prolonge l'élan du roman. Créer un espace à part, propice à l'émergence des émotions, comme si l'écriture devenait une saison recréée, un lieu où se rejoue l'expérience de l'attachement. La proximité comme moteur. Le roman débute par une cohabitation inattendue entre Max et Rosalie, contraints de partager un même espace, chacun avec ses blessures. Point de départ efficace inscrit dans une tradition bien connue de la romance que l'autrice exploite avec finesse. La cohabitation forcée oblige les personnages à se confronter. « Ils ne peuvent pas s'éviter », explique-t-elle. De cette proximité naît une pression sourde, faite d'évitement, de friction, mais aussi d'une attirance qui s'impose peu à peu. Elle ouvre également sur des moments légers, presque ludiques, où le rapport se redéfinit. Jour après jour, les gestes les plus simples, partager un repas, croiser un regard, s'apprivoiser en silence, deviennent autant d'occasions de faire évoluer la relation. L'histoire progresse lentement. Les protagonistes s'observent, se testent, s'essaient à vivre ensemble avant même de se cerner. Cette lenteur confère au récit une densité particulière, ancrée dans le quotidien. Le vertige des premiers emballements. Au-delà du dispositif, l'intensité de l'effervescence porte l'ensemble. Chez Marie Potvin, la romance s'attache à ce seuil fragile où tout commence. Hésitation, impulsion, premier frisson. Dans la vraie vie, combien de fois on va vivre de tels élans amoureux? Alors qu'avec les livres, on peut les revivre à répétition, souligne-t-elle. La fiction devient un espace où explorer, sans conséquence, ce qui échappe au réel ou s'y dissipe trop vite. Ce qui la touche, c'est l'exaltation qui émerge au début d'une rencontre. Les papillons, l'incertitude, le désir de voir les protagonistes aller l'un vers l'autre malgré les obstacles. On cherche à comprendre ce qui les fera se trouver, ce qu'ils accepteront d'exposer à l'autre, quels renoncements s'imposeront. Dans son écriture, elle provoque ces moments d'euphorie, surprend, attendrit, en jouant sur les contrastes entre distance et rapprochement. Une tension traverse l'ensemble. Dans les romans, on peut aller plus loin que dans la vie réelle, se soustraire aux compromis du quotidien pour atteindre une expérience plus aiguë. La romance répond à un besoin simple, celui d'aimer, d'apprécier le processus par lequel quelque chose se noue entre deux êtres, se transforme et se risque, et de le revivre, encore et encore. Ce plaisir de répétition ne demeure pas anodin. On aime aimer, voir des individus tomber amoureux, s'attacher à eux, espérer avec eux. La lecture ravive les sentiments et permet de les éprouver sans les perdre. Le titre lui-même contient cette promesse. « Donne-moi juillet » reste une demande adressée à l'être aimé, celle de laisser une chance au lien, d'accorder du temps pour se révéler. Un moment suspendu où tout peut basculer, mais où rien ne va de soi. Derrière cette simplicité apparente, le fil narratif installe des hésitations, des résistances, tout ce qui rend l'équilibre précaire. Des personnages marqués. Rosalie, mère de famille monoparentale, avance avec prudence, guidée par un instinct de protection qui oriente chacun de ses choix. Marquée par une relation passée difficile, elle érige une distance, attentive à préserver sa fille de toute menace possible. Ce réflexe accentue la tension. Il ne s'agit pas seulement de se rapprocher, mais de gagner une confiance fragile. Avant même d'envisager un véritable contact, il faut d'abord s'amadouer, créer les conditions pour que le lien devienne possible. Cette retenue structure le rythme et donne du poids au moindre geste. Chez Marie Potvin, les personnages se construisent par strates, à partir de figures déjà explorées. Max, notamment, réactive un protagoniste apparu dans « T'étais où, toute ma vie », retravaillé et approfondi. L'autrice privilégie les héros blessés, écorchés, qui doivent en venir à se comprendre avant d'aller vers l'autre. Leurs failles deviennent le moteur du roman. Écrire sans relâche. Marie Potvin publie depuis 15 ans et compte aujourd'hui plus de 80 titres à son actif. Une constance qui tient moins d'une discipline que d'une nécessité. « Je ne pourrais pas arrêter d'écrire. C'est une passion, dit-elle, tout de go. Les projets s'enchaînent, guidés par le même désir de raconter et de matérialiser des figures qui se transforment d'un livre à l'autre. Souvent, plusieurs aventures avancent en parallèle, animées par ce même mouvement. J'ai quitté mon travail en 2014, raconte l'autrice, afin de me consacrer entièrement à l'écriture, sans savoir si cela allait durer. Et ça dure encore. L'exercice n'a rien de simple, mais il m'anime. Si écrire ne demandait pas autant d'efforts, tout le monde le ferait. Refermer le livre sans vraiment s'en départir. Tel est l'effet recherché par l'autrice. J'aimerais que les lecteurs aient envie d'y revenir, comme un film qu'on aime revoir, confie-t-elle. À l'image de ces étés qu'on voudrait prolonger, donne-moi juillet propose une parenthèse où l'on se laisse aller à ce qui nous échappe et où l'on retrouve, peut-être, le lent apprivoisement de l'autre. C'était le 12 août, j'achète un livre québécois, Marie Potvin, Un été pour s'apprivoiser. Une entrevue réalisée par Anne Genet, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.